Campus Bordeaux. Retrouvez les acteurs locaux qui font bouger les choses.
Nos invités, ils sont avec nous dans les studios, c'est Jean-Paul Brussac et Bernadette Nicole. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et merci d'être là avec nous. On va parler de la poésie, du marché de la poésie et du printemps des poètes. Première question, Jean-Paul et Bernadette, qu'est-ce que c'est exactement le marché de la poésie? En quoi ça consiste?
Le marché de la poésie, c'est un travail toute l'année de lecture et ensuite d'envie, de besoin, de nécessité d'accueillir les gens, de creuser un petit peu ce qu'ils ont fait, de partager et puis d'apprendre. Voilà, ça fait 24 ans que nous apprenons.
Et oui, c'est la 24e édition, hein. C'est énorme et ça continue.
Oui, on ne dirait pas comme ça, mais c'est ça, tout à fait.
Non, il y a beaucoup d'éditions, il y a beaucoup de rencontres. On va détailler tout ça dans cette interview. Alors, je voulais faire le point avec vous. Donc, Jean-Paul et Bernadette, vous êtes évidemment les responsables de l'événement. Jean-Paul, c'est vous qui avez créé le marché de la poésie, c'est ça?
Alors, oui, c'est moi qui... Évidemment, on n'est jamais seul.
Oui, bien sûr.
Donc, l'idée c'est venu de deux individus qui sont deux poètes, qui sont aussi deux éditeurs, qui étaient malheureux de ne pas trouver de place à Bordeaux pour leur travail. L'un était à Toulouse, l'autre était à Aix-en-Provence. Et ils m'ont dit un jour, écoute, je pense qu'à Bordeaux, il manque quelque chose d'essentiel. C'est une organisation un peu solide pour nous accueillir, nous, nos amis, nos poètes, notre vie, nos engagements. Alors, fais quelque chose, on viendra t'aider. Moi, j'ai dit, écoute, c'est quand même pas si simple. Mais enthousiasmant. Donc, j'ai dit, écoutez, je vais essayer. Donc, je suis allé au ministère à Paris en leur disant, voilà, il me faudrait un peu d'aide. J'ai été voir la mairie de Bordeaux en disant, il me faudrait un peu d'aide. On m'a dit, écoutez, vous êtes un peu jeune pour avoir des aides, mais on va surveiller ce que vous faites, et puis si vous le méritez, on vous aidera un peu. Donc on a commencé, c'était un peu une kermesse. Ces deux amis sont venus, on a lu des textes dans la rue, on a lu des textes dans la halle, on a lu des textes dans la librairie, on a lu des textes à la poste. C'était la première année. Voilà. Et puis les choses sont évidemment, heureusement, structurées, étoffées, et on m'a beaucoup aidé, et puis c'est devenu maintenant quelque chose d'important.
Alors quand vous dites qu'il y avait des lectures de textes dans la librairie, c'est la librairie olympique que vous
tenez, c'est la librairie olympique qui a la chance d'être juste à côté de la halle des Chartrons, qui est un ancien marché, qui a périclité, mais qui existait encore. Quand j'ai monté la librairie il y a 33 ans, il restait 3 étals, et ce marché, il était vraiment à prendre et à saisir. Parce que j'avais besoin d'un lieu proche de la librairie. Et donc c'est pour ça qu'avec quelques amis, on a monté l'association culturelle du marché des Chartrons, qui était, comme l'idée générale, c'était d'éviter de raser la halle, qui était un projet de la mairie.
Ah oui, d'accord.
De l'habiter, que les gens du quartier s'en saisissent, et puis d'avoir des idées, des projets. Et ce que nous avons commencé à piloter, on a commencé par des expositions, par un peu de théâtre, par des happenings, etc., etc., et puis par des lectures. Et puis ensuite, là, elle s'est structurée, donc on est monté en grade et en gamme.
Je ne savais pas du tout que c'était un projet de raser la halle des Chartrons.
Oh, mais on a eu plus que ça, on a eu plus drôle que ça.
Ah bon?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
On a eu d'abord, c'était donc un parking, ensuite il y a eu un projet de McDonald's, ensuite il y a eu une tour de 25 étages, enfin, il y a eu tous ces projets qui...
Ah oui.
Voilà, on a eu tout ça, plusieurs tentatives, et la dernière tentative, qui je crois a permis d'abandonner le projet, c'était, en fait c'était pas bête, c'était de refaire exactement ce qu'ils ont fait à Saint-Christoli. Après tout, on n'a qu'à faire pareil, puis ça sera très bien. Sauf que le cours Portal était un des cours les plus marchands de Bordeaux, et que les marchands du Coportal voyaient d'un très mauvais œil qu'on leur restait ça. Donc, comme il y a eu des bâtons dans les réseaux de tous les côtés, ils ont tout abandonné. Et puis mon petit projet de leur dire, faisons un lieu culturel, il y a le CAPC pas loin, il y a les quais, on peut faire des choses, on peut faire rebondir. Ils ont dit, écoutez, on va faire ça sera le plus simple. Voilà.
Le plus simple et le mieux.
Moins cher.
Et donc depuis,
moins cher, Bernadette.
Depuis, on a la clé toutes les semaines, tous les ans pendant une semaine.
Ah, c'est génial, c'est un super lieu culturel.
Et donc on a quartier libre et on fait ce qu'on veut, ou en tout cas notre programmation, elle est complètement indépendante et elle est liée qu'à nos bonnes volontés et à nos désirs.
Donc voilà, ça c'est pour l'association culturelle du marché des
c'est
Chartrons.
Ça.
Vous gérez tout ce qui se passe là-bas en fait.
Voilà.
Très bien. Je finis deux petits mots sur la librairie olympique. Donc, c'est une librairie, évidemment, qui est spécialisée en littérature et en poésie, mais c'est aussi une maison d'édition, Jean-Paul.
Ah, oui, ben vous savez, chaque peut-être que vous ne savez pas, mais enfin, peut-être que si, chaque libraire rêve un jour d'être éditeur.
Eh oui.
Et donc, humblement, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années avec des petites plaquettes de poésie. Et ensuite, lorsque il m'est arrivé, ça, plus intéressant, d'inviter un poète qui n'avait aucune publication en France, de pouvoir faire traduire, et que cet homme ou cette femme ait enfin un texte et un livre en français et en France. Donc ça, c'était super chouette. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Et donc, tous les ans, tous les deux ans, deux fois par an, selon les belles choses de la librairie, on fait. Donc, on a une vingtaine de titres. Il faut juste que je vous dise que c'est professionnel parce que je suis libraire, mais c'est un tirage à 150-200 exemplaires, et ça tourne autour de la poésie et autour du marché de la poésie, autour des auteurs et autour de D'accord. quelques libraires parisiens que je connais et qui me connaissent. Voilà, ça s'arrête là. Hein,
Très bien, c'était pour faire le point ce qui gravite autour du marché de la poésie dont il est question aujourd'hui. Ce marché de la poésie, il est dans le cadre du Printemps des Poètes, mais comment ils sont liés ces événements et comment on peut les distinguer?
Alors, le Printemps des Poètes, c'est national.
D'accord.
Ça vient du ministère de Jacques Lang, qui, avec son ami qui était ministre des Postes, a un jour, lors d'un repas, décidé qu'ils avaient eu un gros succès avec le printemps de la, c'était pas le printemps, de la musique, de faire la même chose en poésie. Donc c'était la première année. La première année, on nous a demandé, affolement général, il faut faire quelque chose. Le ministre a décidé de faire quelque chose. Et on fait quoi? Et donc c'est pour ça que je vous disais, le plus simple pour nous, aucun budget, rien.
Hein. Eh oui.
Donc on a dit, ben, écoutez, on va prendre des livres et puis on va lire dans la rue, on va lire à la poste. Donc on est allé à la poste pour lire quelques textes. Ça, c'était la première année. Et évidemment, ça a intéressé et interrogé pas mal de gens. Et maintenant, ça se décline dans toute la France de manière puissante, nécessaire. Et donc, à Bordeaux, on n'est pas les seuls. Parce qu'il y a la librairie, j'ai évidemment des relations très privilégiées avec les éditeurs. Donc les éditeurs viennent, souhaitent venir. Moi, je souhaite qu'ils viennent. Donc les choses se font. Mais je sais que dans chaque ville de France, il y a des tentatives, des petits financements ou des plus gros, pour agiter un peu le bocal.
Donc voilà. Vous nous l'avez dit, Jean-Paul. Pardon Bernadette, vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Ah non, pas du tout, j'ai cru. Vous nous l'aviez dit, Jean-Paul, le marché de la poésie, au début, c'était quelque chose de très petit, hein, ça s'apparentait à une kermesse. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros, donc on voit l'évolution. Mais surtout, il y a une thématique chaque année, et cette année, c'est les frontières. Déjà, elle indique quoi, cette thématique, par rapport au contenu du festival?
Alors, donc vous savez que c'est Sophie Nolot qui dirige, voilà, qui s'occupe donc de ça. Et donc ça a commencé par la lettre A, B, C, D, E, et là on est à F, et donc ils ont trouvé les frontières. On ne sait pas si c'est très judicieux aujourd'hui avec tout ce que l'on vit, mais en tout cas... Alors, nous, après je laisse la parole à Bernadette qui sera plus précise dans l'enthousiasme et dans tout ça. Moi, je suis parti de l'idée, ou en tout cas l'interrogation que j'ai souvent sur la frontière entre la littérature et la poésie, l'écrit poétique et l'écrit romanesque, et à quel moment les choses sont stabilisées, à quel moment elles ne le sont plus ou à quel moment elles le sont moins. Donc cette frontière-là, les gens que j'ai invités, ce sont des gens qui, sans forcément l'interroger, en tout cas se questionnent sur une partie de leur travail qui est plutôt romanesque ou pas, et certains qui sont résolument dans la poésie et pas dans le roman, ou certains qui sont à cheval entre les deux et qui jouissent d'un côté ou de l'autre. Voilà. C'était une espèce de hasard, de fragilité, et puis par moments de force, qui fait que j'ai essayé d'inviter des gens qui étaient résolument comme ça, entre les deux.
D'accord. Bernadette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors?
Oui, alors moi je connais le marché de la poésie en tant que personne qui, qui, qui allait au marché de la poésie, je consommais entre guillemets avec gourmandise du marché de la poésie. Et maintenant, depuis cette année, et un petit peu l'an dernier, mais surtout cette année, je fais partie de l'équipe. On est plusieurs, on est nombreux, on est une poignée de bénévoles à nous occuper de ça. Et j'ai aussi un regard un peu différent, parce qu'on a chacun notre regard et notre voix. Et quand on me parle de frontières, moi, je vois ça plus... alors, comme ce que dit Jean-Paul, hein, sur cette... on va faire tomber les frontières et on va abattre tous ces murs, finalement. Et quand j'entends le mot frontière, moi, ce qui me venait en regardant le programme que je révisais un peu avant de venir vous voir, c'est de voir cette frontière entre l'universel et l'intime. Parce que le poète, en permanence, il parle de lui, il parle aux gens qui veulent bien l'écouter, l'entendre, mais il parle aussi d'universalité. Et finalement, il n'y a pas de frontière entre ce que je ressens, ce que je vois, moi, poète, si j'en étais un, et ce que je peux dire au monde. Et à travers tous ces auteurs qui viennent, ils vont essayer de bousculer ces frontières pour rencontrer l'autre de manière très différente, puisqu'ils sont tous très différents. Ils ont peut-être en commun, ce que je dirais, d'être cette année jeunes. On a vous avez dû le remarquer dans notre programme, des auteurs très jeunes.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de femmes, ils viennent de partout. On a bien évidemment des poètes qui viennent de Bordeaux, peut-être, oui, de Bordeaux, de Paris, de Lyon, de Lille, d'Haïti, de Nouvelle-Calédonie, d'Afrique. Enfin, on a quand même quelque chose qui est très vaste sur le plan de la découverte. Et puis, on a des propos très différents. On a, par exemple, Antoine Mouton qui va nous parler du couple. Qu'est-ce que le couple ? Qu'est-ce que la rencontre ? Qu'est-ce que le désenchantement de gens qui se séparent, qui se bousculent, qui se font mal ? On a aussi, dans un autre registre intimiste, Baptiste Pizzina, chez l'Iconopop, qui vient nous parler de comment le désir, le sexe, la sexualité peut être, aboutir à une révolution, une prise de conscience, et pas seulement un acte complètement intime. Donc je trouve que cette frontière entre l'intime, l'universalité, la résistance, parce qu'on a aussi des résistants. Notre auteur haïtien Rolafon Mercure vient hurler sa rage de ce qui se passe dans son pays, et il écrit des choses. Enfin, il dit : je me sers de mes blessures pour écrire. Et il a un texte notamment qu'il a appelé « Fuck Dieu, fuck le vaudou, je ne crois qu'en mon index ». Donc il hurle des choses qui partent de lui, mais qui vont secouer un peu le cocotier. Et quand Jean-Paul parlait de l'époque, qui est quand même très singulière, très dure, la poésie a toute sa place, c'est un cri dans la nuit.
Alors, Rolafton Mercure, on l'avait reçu l'année dernière à Radio Campus, pour présenter le marché de la poésie. Il nous avait lu un extrait de « Fuck Dieu, fuck le vaudou ». Et c'est vrai qu'on ressentait, c'était une passion énorme. Donc cette passion, en tout cas, c'est ce qui marque le marché de la poésie, c'est ce qui va marquer ces rencontres, ces débats aussi et ces réflexions qu'on va voir à travers tous ces textes, toutes ces productions de jeunes poètes.
Oui.
Voilà. On peut dire qu'aujourd'hui, on parle de jeunes générations, la poésie, elle est tout aussi forte avec eux. Comment on peut placer la poésie par rapport aux âges ?
Par rapport ?
Aux âges,
À cette génération,
cette génération, je ne sais pas.
Alors, tu peux dire ?
Alors, on va peut-être dire deux choses différentes, mais moi, je les trouve extrêmement puissants et avec une acuité énorme. Peut-être que les problématiques sont toujours les mêmes. Comment aimer, comment être au monde, comment supporter la misère, comment trouver les choses belles. Mais après, les modes d'expression ont changé. On slame, on hurle, on éructe dans la rue, on envoie trois vers ou de la prose sur les réseaux sociaux. Donc on combat avec des armes d'aujourd'hui.
Non, moi je suis assez Bernadette là-dessus. Et c'est vrai que les années précédentes, on nous reprochait un petit peu d'inviter des gens de mon âge, de mes lectures, bêtement, que je suivais, sans m'en rendre tout à fait compte d'ailleurs, des gens un petit peu de mon âge, et qu'il y avait donc, c'est vrai, une force, une grande puissance d'écoute et de lecture, avec peut-être une distance difficile à dire comme ça, mais j'ai senti une petite distance par rapport au public. Il y a une espèce d'intériorité qui n'avait pas ou qui ne voulait pas ou qui ne devait pas fusionner. Et alors qu'effectivement, comme dit Bernadette, c'est vrai que la puissance de cette jeunesse qui croit et qui croit, je crois, assez au groupe, alors que ceux de mon âge croyaient plus en eux-mêmes qu'au groupe, fait vraiment une belle distance avec les années précédentes. La jeunesse, les femmes, c'est vrai. Mais bon, il a fallu me bousculer un peu pour en arriver là, quand même.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on revient peut-être plus aux politiques. Tu l'as fait déjà avec certains auteurs quand tu...
Oui, Darwish est venu, voilà. C'est vrai.
Il y avait quand même des militants, des gens qui venaient dire des choses très très fortes, ben, notamment sur la Palestine. Bon. Mais là, on est au cœur d'un politique peut-être un peu différent, parce que la façon dont la jeunesse s'empare du politique et... il y a ces combats des femmes, ces combats pour la planète, ces combats encore, malheureusement, pour la couleur de peau, l'identité. Et ils s'en emparent d'une façon assez différente, comme tu disais, oui. Peut-être il y a une spontanéité, une fraîcheur. Peut-être le recul n'est pas là, ou je ne sais pas, viendra plus tard. Mais c'est très beau.
Comment on peut le définir, le rôle de la poésie aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de militantisme, comme vous l'avez dit, Bernadette, mais est-ce que ça peut être plus large que ça ?
Plus large ?
Enfin, comment on peut définir le rôle de la poésie ? C'est pas une question facile, mais je me demande que, voilà, ce que ça donne de nos jours.
Alors ça peut être défini, Bernadette l'a dit, et c'est vrai que c'est peut-être le plus clair à repérer par une forte révolte. Il y a par exemple, comme quoi rien n'est vraiment nouveau, rien n'est vraiment neuf. C'est vrai qu'on a connu un peu la Beat Generation parce qu'ils allaient dans la rue lire, parce que Rex Ross leur a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites dans des librairies ou dans des universités à lire vos textes ? Ça n'intéresse que nous, ça n'intéresse pas le monde. Allez donc dans la rue, confrontez-vous avec la rue, et puis la rue vous dira si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est pas à moi de le dire. Et là, on se rend bien compte. Il y a un petit exemple qui m'a toujours interrogé et qui m'a un peu fait réfléchir. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Lionel Bourg, qui est un puissant écrivain, connu par les Happy Few, mais qui a une magnifique voix et qui lit ses textes de manière fantastique. Simple, rock, avec du rock, mais fantastique. Et qui ne supportait pas. Il y a eu des conflits dans les premières années du marché de la poésie, parce que les gens voulaient se saisir de son texte et le lire, et il ne supportait pas. Et j'ai entendu plusieurs professionnels, plusieurs personnes le dire, même si... Alors, ce n'était pas le cas de Lionel, qui lui lisait très très bien, mais il disait, pour être exact, c'est celui qui écrit le seul qui peut dire. Et que c'est le seul qui peut parler. Les autres ne sont que des transfuges. Et c'était quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Et je me suis dit, même quelqu'un de très maladroit, ou quelqu'un qui bafouille, il a une espèce de cachet d'authenticité. Enfin, il pense, il croit, il sait. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas du tout certain. Hein, mais ça veut dire, et c'est vraiment la force et la puissance de l'écriture. Celui qui arrive à écrire et celui qui arrive à le faire... peut effectivement revendiquer, et c'est une des grandes et belles choses, revendiquer qu'il est le seul capable et le seul à avoir le pouvoir pour le faire et pour le dire et pour parler aux autres. Pas d'effacement. Voilà. Donc c'était un peu, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, pas forcément à votre question.
C'est une question ouverte,
Jean-Paul. mais c'est vraiment penser ça. Hein, la lecture est quand même quelque chose d'étonnant. On quitte la solitude de la page et on s'adresse aux autres. Et quand quelqu'un d'autre le fait, peut-être et des fois mieux que soi-même, voilà, il y a cette espèce de question qui reste toujours un peu en suspens.
Qu'est-ce que vous en pensez, Bernadette ? Vous êtes d'accord avec Jean-Paul ?
N'hésite pas à dire non. Hein. Moi, c'était juste...
Je suis parfaitement d'accord avec Jean-Paul, comme toujours, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant ce que dit
oui,
Jean-Paul.
Oui, c'est intéressant. Comme
et ça me touche beaucoup. Moi, ce que je voulais dire, la question, c'était quoi ? À quoi sert la poésie aujourd'hui ? C'est ça, votre question ?
Oui.
Comment on peut définir le rôle de la poésie ?
Alors, moi, je dirais, ça sert à tout, ça sert à rien. C'est-à-dire que ça sert à tout, c'est une façon de s'adresser au monde, aux autres, pour peut-être leur dire des choses très fortes et très puissantes, comme « levez-vous, prenez vos armes et allez vous battre », et puis peut-être aussi de dire « t'es pas tout seul, mon gars, moi j'aime comme toi, j'ai du chagrin comme toi », ou simplement « ouvre les yeux », oublie ton nombril, regarde comme la terre est belle. Ou... Enfin, ça sert à ce qu'on veut. Et c'est particulièrement utile, je dirais, ben, peut-être dans un monde où on dit qu'on est déconnecté parce que trop connecté. Donc, ça nous ramène à la terre, à l'autre. Et c'est un acte artistique et politique. Et comment dire, c'est un acte qui devrait être remboursé par la sécurité sociale, peut-être. C'est un acte de santé publique.
Ça, c'est bien dit. On peut peut-être continuer d'explorer la programmation qui est très fournie. Il y a surtout plusieurs lieux à prendre en compte. Donc, il y a évidemment la Halle des Chartrons, la librairie olympique qui est juste à côté. Mais il se passe des choses aussi à l'Institut Cervantes.
Oui. Alors, mais Bernadette, qui a travaillé le programme plus que moi.
Alors, Bernadette.
Alors, Cervantes, C'est un écrivain, un jeune poète sud-américain qui est venu me voir il y a 2-3 ans avec un de ses livres et qu'on a accueilli au marché de la poésie et qui a rebondi, qui est revenu et qui maintenant fait une revue tout à fait singulière, avec un pliage en 4 ou 5 pages où il y a 5 ou 6 poèmes à 3 euros la chose et qui veut comme ça distribuer. Et donc on fait des liens avec le Cervantes. Lui, si tu veux en parler un peu, c'est un homme que j'aime beaucoup, qui est à la fois qui est plongé dans son écriture et qui a une ouverture vraiment. Il veut accueillir tout le monde, il veut faire une anthologie de la poésie sud-américaine qui va lui prendre 20 ou 30 ans. Enfin, il veut accueillir, il veut faire, il veut dire. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas voulu, c'est qu'on pense... Enfin, ça fait des années qu'on travaille pour être ou avec le Cervantes ou avec le Goethe, pour essayer d'ouvrir, pour essayer de ramifier tout ça, pour pas être seul ou pour faire partager avec d'autres gens, d'autres énergies, d'autres puissances, d'autres forces, évidemment. Donc voilà pourquoi Cervantes et voilà pourquoi cet homme. Et il sera là, bien sûr, comme tous les ans, au marché de la poésie, parce qu'il y a beaucoup de tables disponibles au marché. Il y a évidemment la librairie qui chapeaute, elle, une structure, disons, pour faire vite, professionnelle, avec des éditeurs professionnels, avec des hiérarchies, enfin, tout un... Et puis, il y a la moitié de la halle que l'on donne à disposition d'écrivains, d'éditeurs qui ont fait un seul livre dans leur vie, mais qui sont là.
D'accord.
Voilà, on accueille tout le monde, c'est ouvert, c'est gratuit, voilà.
Est-ce que ça rentre dans le cadre du 24e salon du livre de poésie qui est englobé dans cet événement, c'est ça?
Oui, alors si je peux me permettre de rebondir sur Cervantes et ce qu'on va faire avec eux,
oui,
pour être très précis, si tu permets Jean-Paul, c'est le 16 mars à 18h qu'il y aura une rencontre autour de la poésie péruvienne. Donc là, on convie tous les auditeurs à se précipiter à l'Institut Cervantes, si c'est un choix de leur part, bien sûr. Et après, sur le plan du fonctionnement, c'est ça que vous me demandiez. Hein.
Voilà. Comment ça s'articule entre les différents lieux?
Alors, donc ça, c'est quelque chose qui se fait à l'extérieur de la halle du marché des Chartrons. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le marché de la poésie, qui a lieu lors du salon du livre poésie sur 2 jours,
d'accord,
samedi et dimanche. Et c'est là que, comme dit Jean-Paul, nous accueillons tous les éditeurs, les auteurs. Et les éditeurs, les auteurs sont là, mais il y a aussi une scène sur laquelle viennent s'emparer de leurs propos tous les auteurs présents, interviewés ou pas par les éditeurs, et avec aussi une interaction avec le public, parce que l'idée, c'est que le public s'empare de ces auteurs qui viennent, de leur présence, pour les questionner, les entendre, puisqu'ils vont aussi dire leurs poèmes, voilà, enfin leurs textes. Et ensuite, il y a des soirées. Donc le salon de la poésie, le salon du livre poésie, c'est de 11h à 19h, samedi et dimanche. Et les soirées, eh bien c'est à partir de vendredi jusqu'à mercredi prochain. Et là, chaque personne invitée va nous offrir une proposition qui se trouve dans notre programme que vous pouvez trouver sur le 24e marché de la poésie. Si vous voulez, je peux développer un peu.
Pour le programme complet qui est bien fourni, on peut rediriger nos auditeurs vers un lien peut-être ou un site internet
pour
retrouver tout ça.
Si vous allez au 24e marché de la poésie, vous tapez 24e marché de la poésie de Bordeaux et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. On a aussi une page sur Instagram, Facebook, etc. Mais notre lien, c'est le 24e marché de la poésie et vous allez tomber sur un hashtag.
Tout à fait.
HTTP, etc. Et là, vous avez tout le programme qui est décliné. Avec, donc, je rappelle, dans la journée samedi-dimanche, ce salon du livre poésie. Et puis ensuite, tous les soirs, ces manifestations qui démarrent à 20h30. Hein, Antoine Mouton, Les Chevals Morts,
Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Permets. Non, parce que c'est un peu singulier, mais c'est normal parce que c'est la librairie. C'est que on essaie vraiment de lier l'éditeur et le poète, et l'éditeur, ce qui fait que l'éditeur a autant la parole ou à peu près autant la parole que l'auteur. Et cette complicité que moi dont je rêve ou dont j'admire le sens, on essaie de le retrouver dans ce face-à-face, dans ce tête-à-tête, dans la Halle des Chartrons. C'est la raison pour laquelle il y a des tables qui sont réservées pour accueillir à la fois l'auteur et l'éditeur. Et après et avant leur arrivée sur scène, ils sont souvent, même tout le temps, disponibles pour pouvoir dialoguer, discuter et continuer le lien. Voilà, donc éditeur, auteur, auteur, éditeur. Le samedi, le dimanche, c'est vraiment quelque chose qui est un tout lié.
Très bien.
Pour moi, dans mon projet, est-ce qu'il est réussi? Ça, c'est vous qui allez me le dire. Mais là, pour l'instant, c'était le projet.
Voilà, c'était aussi des rencontres, hein, le salon du livre de poésie, le marché de la poésie. On crée du lien, on rencontre du beau monde avec des lectures, de la musique, comme vous nous l'avez dit, Bernadette. Finalement, le marché de la poésie, c'est un événement qui s'adresse à qui?
À tout le monde, non?
À tout le monde. Aux curieux, pas seulement aux amoureux de la poésie.
Alors non, parce que, enfin, moi je serais tenté de dire pas que, parce que les amoureux de la poésie, c'est peut-être une manne limitée, mais les amoureux de la vie, c'est tous les autres, et aussi ont leur place là, parce que la poésie, c'est tellement éclectique et riche qu'il y a des gens qui viennent, ils passent par là, par hasard, et nous disent, je reviendrai, c'était tellement bien votre truc. Donc, ami poète.
Oui, c'est à la fois formel et à la fois légèrement informel ou structuré, mais légèrement déstructuré pour que les gens soient bien et soient à l'aise.
Ça circule beaucoup. On rentre, on sort, on vient écouter un poète qui vient parler ou parler avec son éditeur, et puis on vient à une table s'asseoir pour une dédicace, et puis on va feuilleter un bouquin, et puis on va écouter un spectacle, et puis il y a de la musique aussi, comme vous disiez, saxophoniste qui vient, François Cornemou.
Enfin, après 24 fois, on est presque au point.
Vous êtes bien modeste. Et puis on a envie de revenir d'une année à l'autre, comme vous dites, Bernadette, et puis pourquoi pas devenir bénévole, comme ça a été votre cas.
Oui, je connais la librairie olympique pratiquement depuis longtemps, hein. Et le marché de la poésie depuis longtemps aussi, et je fréquentais, je passais par là, etc. Et je me suis laissée happer par cette équipe formidable qui avait besoin de renaître après des modifications, enfin bien malgré elle, hein, mais bon. Voilà, et donc j'ai pris une place, je suis modestement la secrétaire de l'équipe et je fais d'autres choses.
Une place essentielle.
Merci Jean-Paul.
Bernadette et Jean-Paul, merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ce marché de la poésie avec nous sur Radio Campus. On vous souhaite évidemment de beaux événements, de belles rencontres, de belles lectures et de la poésie à n'en plus finir.
Merci de nous avoir accueillis en tout cas. Au revoir.